Donc pour cette dernière étude, nous allons lire 1 roi 17 dans ses 10 premiers versets. 1 roi 17, verset 1er jusqu'au début du verset 10, ce sera notre première lecture. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain, tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Nous allons vers le Nouveau Testament et vers l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 3, Philippiens chapitre 3, pour écouter un témoignage de l'apôtre Paul. Philippiens 3, versets 4 à 14. Philippiens 3, versets 4 à 14. Je lis au verset 4, « Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, en ce qui est purement humain, je le puis bien davantage, moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Oh, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été totalement empoigné par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous l'avons dit au début de notre étude, ce matin, dans une réponse d'ordre général, le torrent, c'est tout ce qui peut se glisser à la première place dans ma vie. tout ce qui s'intercale entre Christ et moi, et qui donc devient une idole. Nous sommes allés un peu plus loin, avec une réponse un peu plus précise. Le torrent de Kérit, c'est toute bénédiction, tout don de Dieu, qui, à un moment ou à un autre, peut venir s'intercaler entre Christ et moi, et de ce fait, devenir une idole. Et nous avons vu combien le piège était subtil. Les meilleurs cadeaux de Dieu, les plus grandes bénédictions, les biens les plus légitimes, les réalités les plus spirituelles peuvent devenir les pires ennemis de la fidélité du croyant. Nous avons annoncé quatre catégories, entre guillemets, parmi toutes ces bénédictions qui peuvent devenir pièges. Et nous en avons considéré deux. Tout d'abord les personnes, mes parents spirituels, des hommes et femmes de Dieu, des donateurs, de grands amis, des membres de mon église ou de ma famille, mon conjoint, nos enfants, mon frère, ma sœur, peuvent devenir un torrent de Kérit que Dieu va assécher par amour pour nous. Et puis ensuite, nous sommes penchés sur une deuxième catégorie, la foi, les dons spirituels, les actes de piété. Nous aurions pu ajouter ces moyens de grâce que sont la communion fraternelle, la lecture de la Bible, la vie de prière et tant d'autres choses. Tout cela peut devenir idole si nous attribuons à ces choses une vertu intrinsèque, un pouvoir autonome. Et nous avons parlé fétichisme, superstition, magie, idolâtrie. J'aimerais dire quelques mots sans trop m'y attarder sur une troisième catégorie de bénédictions qui peuvent se transformer en ennemis de Dieu dans nos vies. Nous l'avons évoqué, nos expériences d'hier. Nous l'avons dit, je peux être tenté de construire un barrage pour accumuler les expériences bénies du passé. Le torrent se transforme en piscine dans laquelle je barbote à longueur de journée pendant que l'eau devient stagnante, polluée, nauséabonde, car les écluses des cieux se ferment. Et mon lac de Galilée peut ainsi se transformer en mer morte, royaume de mort, de stérilité. Alors le Saint-Esprit va assécher ces mares stagnantes, il va dynamiter ces barrages pour m'obliger à revenir à la source de la grâce. Prenons deux ou trois exemples sans nous y attarder. Vous connaissez l'histoire des Diplées et toute la stratégie divine se servant de Moïse et d'Aaron pour manifester sa gloire aux yeux des Égyptiens. Une femme de Dieu qui a été utilisée par lui au début du XXe siècle, vers la fin du réveil du Pays de Galles, pour souligner les déviations qui étaient en train de s'opérer et qui ont fait beaucoup de dégâts, hélas, à la fin de ce réveil, cette femme de Dieu a fait observer que Dieu s'est servi de la verge d'Aaron entre les mains de Moïse pour ses trois premiers jugements sur l'Égypte. Mais que curieusement, pour les deux jugements suivants, la verge disparaît, ou plutôt cède la place à la parole. Ainsi parle l'Éternel. Et cette femme de Dieu s'est interrogée et interroge. Moïse avait-il commencé à s'appuyer de quelque manière que ce soit sur ce bâton? Sa réponse. Dieu ne veut pas que nous nous appuyions pour le présent sur les choses que, cependant, il a données lui-même et bénies dans le passé. Et il faut toute sa vigilance pour empêcher que nous nous attachions à quoi que ce soit d'autre qu'à lui ou à sa seule parole. Il en sera ainsi jusqu'au bout. C'est ce qui explique pourquoi Dieu agit parfois d'une manière que nous trouvons étrange. Ce qu'il a donné, il le redemande pour le donner à nouveau. Parfois le redemande encore afin que l'instrument reste souple et toujours prêt à faire sa volonté. Il y a au seuil de la royauté de David, royauté effective, qui suit la deuxième onction, voire même, oui, la troisième, puisqu'il y a eu trois onctions successives. C'est d'ailleurs plein de pédagogie, tout cela. Dans 2 Samuel 5, il y a un récit très intéressant que nous allons rapidement parcourir. 2 Samuel 5, versets 17 à 25. 2 Samuel 5, 17 et suivant. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël. Et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se déployèrent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant, « Monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel dit à David, « Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » David vint à Baal-Pératsim où il les battit. Puis il dit, « L'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératsim. » Ils laissèrent là leurs idoles et David et ses gens les emportaient. Les Philistins montèrent de nouveau et se déployèrent dans la vallée des Réphaïm, rebelote, comme on dit, n'est-ce pas? David consulta l'Éternel. Et l'Éternel dit, « Tu ne monteras pas. Tourne-les par derrière, tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans la cime des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. » David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il battit les Philistins, depuis Gueba jusqu'à Guézer. C'est intéressant, n'est-ce pas? Deux situations identiques. Même ennemi, même secteur. Mais pendant 10 années d'école extrêmement difficile dans cette poursuite acharnée de Saül contre lui, n'est-ce pas? David a appris la souplesse et la nécessité de toujours reprendre les mesures. Donc malgré la première victoire, dans cette vallée des Réphaïm, David ne tombe pas dans le piège. Et quand la même situation se reproduit un peu plus tard, il consulte l'Éternel et il a raison de le consulter. puisque l'Éternel lui dit non. Cette fois-ci, j'ai décidé que la stratégie serait tout à fait différente de la première fois. Importance de dépendre continuellement du Seigneur et non pas de nos expériences d'hier. Il y a, même dans le Lévitique, dans le culte Lévitique, toutes sortes d'indications qui vont tout à fait dans la même direction. Dans Lévitique 7, par exemple, 15 à 18, il est question de la chair, du sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce, qui devait être impérativement mangé le jour de l'offrande. Pour d'autres offrandes bien spécifiques, il y avait une limite de 2 jours. Au-delà, le sacrifice n'était plus agréé, et l'Éternel précise que tout cela était considéré comme une chose absolument infecte. Puis alors, dans la formation d'Israël au désert, il y a ces fameuses canailles, cailles, et la manne. Et vous savez que dans cette mise à l'épreuve du peuple d'Israël, Dieu ordonne que la quantité de manne recueillie chaque jour ne soit pas stockée. Il y avait un partage qui devait se faire de manière équitable. Chaque matin, il fallait recommencer, sauf la veille du sabbat, où Dieu donnait son accord pour qu'il y ait une cueillette ou un ramassage pour 2 jours. Interdiction de faire un barrage en constituant une réserve pour plusieurs jours. Les vers s'y mettaient et cela devenait infect. Et ce que Dieu voulait dire à son peuple, c'est que nous ne pouvons pas vivre de notre communion avec Dieu d'hier. Nous ne pouvons pas vivre de notre victoire d'hier, de notre consécration d'hier, de nos bénédictions d'hier. N'essayons pas de constituer aujourd'hui une réserve de grâce pour demain. Dieu me donne la grâce dont j'ai besoin maintenant. Et il y a un côté très positif dans ce que nous disons là. À savoir que si demain je suis placé dans une situation extrêmement grave que j'ose à peine imaginer aujourd'hui, je n'ai pas à m'inquiéter pour demain. Dieu me donnera demain la mesure de grâce dont j'aurai besoin demain. Je n'en ai pas besoin aujourd'hui. Pourquoi Dieu me la donnerait-il aujourd'hui? Je pense à cette femme de Dieu, Corrie ten Boom, qui fit connaissance du spectre de la mort lorsqu'elle accompagna ses parents pour la première fois étant enfant et qu'elle vit une personne décédée sur son lit de mort. Lorsque le soir elle se coucha dans son petit lit d'enfant et que sa maman vint la rejoindre, elle trouva Corrie en sanglots. Et entre 2 sanglots, Corrie de raconter à maman et à papa son insécurité, disant en quelque sorte, mais comment est-ce que je pourrais passer par là? Et puis en même temps, elle pensait que papa ou maman ou les deux pouvaient aussi mourir. Donc, elle envisageait dans son esprit d'enfant tout ce que pouvait signifier l'épreuve. Et en particulier, celle-là plus précisément, dans son avenir. Et c'est son papa qui l'a rassurée. Elle lui a dit à peu près ceci, Corrie. Quand toi et moi, nous partons en voyage et que nous allons prendre le train, est-ce que nous achetons le billet 15 jours, 3 semaines avant? Bon, maintenant, c'est ce qu'on fait, hein? Et autrefois, hein? Est-ce que nous achetons le billet 15 jours, 3 semaines avant? Non, papa. Quand je vais avec toi, on achète le billet juste avant de monter dans le train. Alors Corrie, ne t'inquiète pas. Le jour où tu devras monter dans le train, de toutes sortes de difficultés, quelles qu'elles soient, Dieu te donnera le billet pour le voyage. Tu n'en as pas besoin maintenant. Et vous savez combien Corrie a souffert. Et Dieu lui a donné le billet de sa générosité au moment où elle est montée dans ce train terrible de la déportation. Et Dieu a même, dans son amour, n'est-ce pas, et dans sa souveraineté, fait relâcher sa servante par erreur. C'est une erreur sur le plan administratif dans ce cas. Mais c'était la volonté de Dieu, parce que Dieu avait un merveilleux ministère pour elle, après la guerre, tout d'abord en Allemagne en particulier, et puis au-delà, je dirais sur la terre entière. Moody, ce fameux homme de Dieu, inculte et tout le reste, vous vous souvenez de ce qu'on l'a dit de sa faiblesse. Eh bien, Moody a écrit ceci. Un homme ne peut pas plus prendre aujourd'hui une réserve de grâce pour l'avenir qu'il ne peut manger suffisamment aujourd'hui pour les 6 prochains mois, ni inhaler suffisamment d'air dans ses poumons pour vivre pendant une semaine. Il nous est cependant permis de puiser dans les réserves de grâce de Dieu jour après jour, selon nos besoins. Alors, mes bien-aimés, n'essayons pas de faire descendre Isenfluh dans la vallée. Isenfluh, c'était, pour la plupart d'entre nous, jusqu'à demain. Demain, Isenfluh, c'est fini. Ça restera une expérience, je le souhaite et je le crois, lumineuse, mais ça restera une expérience du passé. Nous devons en tirer toute une fécondité pour la suite, mais ne jamais nous installer sur une sorte de nuage Isenfluh. Vous savez, c'est ça le problème. On va descendre physiquement, mais on a parfois beaucoup plus de peine à descendre là-dedans. Et pourtant, il faut descendre aussi et dire, bon Seigneur, maintenant, je regarde devant. Tu m'as accordé une grâce, je vais maintenant exploiter cette grâce, mais je vais plus loin. Sinon, nous allons être malheureux, et si jamais nous nous rencontrions dans 15 jours, j'ose à peine penser au désastre, peut-être, qui serait visible, tout simplement parce que nous essayerions de perpétuer ce que nous avons vécu ici, sur les sommets. Nous avons lu Philippiens 3, 4 à 14, Paul qui court vers le but, qui oublie ce qui est en arrière. Alors j'aime ce commentaire fait par un homme de Dieu qui, nous avons 2 livres en français, Steinberger, qui a écrit ceci, ne nous arrêtons donc pas à nos expériences, si bénies soient-elles. Une expérience n'est glorieuse que lorsqu'elle nous sert à en faire une autre, plus glorieuse encore. Paul avait fait des expériences sublimes, et pourtant il dit, j'oublie ce qui est en arrière. Par ce qui est en arrière, il n'entend pas seulement son passé, ses péchés, ses manquements, mais aussi ses merveilleuses expériences. Il était saisi par les choses qu'il n'avait pas encore saisies. Il demeura toute sa vie tendu vers le but. Devenu vieux, il voyait encore devant lui un cercle à explorer. La vie de résurrection et la porte qui y mène, la communion des souffrances de Christ, la conformité à sa mort. Combien c'est encourageant ! Y compris pour le 3e, 4e, 5e, 6e, 7e âge, puisque l'on vieillit tellement aujourd'hui, nous avons toujours et jusqu'au bout la possibilité d'entrer dans un nouveau cercle d'expériences plus profondes. C'est la dynamique de la vie chrétienne. Et c'est ça aussi ce qui fait la différence fondamentale entre un christianisme authentique et tous les pis-aller que nous offre le monde. Simpson, le fondateur de l'Alliance chrétienne missionnaire, d'écrire ceci, dans les différentes strates de la terre, nous trouvons des traces de destruction d'une vie organique primitive. Il y a eu une création, puis une désintégration, et sur ces ruines s'est construit un développement nouveau et supérieur. Il en va de même dans le domaine spirituel. Il arrive un moment où nous prenons conscience du fait que l'expérience ancienne ne peut pas nous satisfaire. Les vieux réphidim sont à sec, et nous devons fendre quelques nouveaux rochers d'Horeb pour recevoir un approvisionnement d'eau d'une source supérieure. Faisons mourir les choses anciennes. Elles ne sont que l'assise de quelque chose de mieux. Que la vieille autoroute soit défoncée. Par-dessus, on doit construire la voie royale. Que la vieille galerie soit défoncée, il faut construire une belle salle à manger. Et puis il arrivera un moment, si le Seigneur n'est pas revenu, où la belle salle à manger aura encore besoin d'être sérieusement transformée. C'est ça, n'est-ce pas? C'est l'histoire d'Isenflou. Heureusement qu'Isenflou n'est plus en 2001 ce qu'il était il y a 50 ans et des poussières. N'est-ce pas? Et pourquoi est-ce que nous avons tant de peine, nous, à aller d'expérience en expérience? Pourquoi est-ce que nous nous arrêtons si facilement sur le passé? Quatrième dimension, département de bénédiction facilement idolâtrée. Et là, je suis heureux que nous ayons encore un moment ce soir pour nous y arrêter, parce qu'elle est très importante, et c'est sans doute aussi la raison pour laquelle je l'ai placée en dernier. Je veux parler ce soir de notre affectivité. Notre affectivité, nos sentiments, nos émotions sont fluctuants, comme le torrent de Kérit. Ce sont des points de repère très peu fiables. Et Dieu nous demande de ne pas accorder une confiance exagérée, voire aveugle, à ce que nous ressentons. C'est aussi pour cela qu'il est dit dans 2 Corinthiens 5, 7, nous marchons par la foi et non par la vue. La vue, eh bien, ce sont notamment les sables mouvants de l'affectivité. La foi véritable ne s'appuie pas sur ces sables mouvants, mais elle se fonde sur la connaissance de la vérité. Ce philosophe athée, devenu disciple de Jésus-Christ, grand penseur au sein du peuple de Dieu, C.S. Lewis, a écrit ceci: la foi est l'art de s'accrocher aux certitudes que votre raison a acceptées une fois pour toutes, en dépit de vos variations d'humeur. Car votre humeur changera, quel que soit le point de vue qu'adopte votre raison. Oh, je le sais par expérience. Maintenant que je suis chrétien, je subis des sautes d'humeur au cours desquelles toute croyance religieuse paraît fort improbable. Mais quand j'étais athée, j'avais de même des dispositions d'esprit où le christianisme me semblait fort probable. Cette rébellion de vos humeurs contre votre être intérieur se produira, soyez-en sûr. C'est pourquoi la foi est une vertu si nécessaire. Si vous prenez en compte vos sautes d'humeur, vous ne pourrez jamais être un chrétien solide ou un athée convaincu. Vous serez seulement une créature s'agitant sans but et dont les croyances dépendent du temps ou de l'état de votre digestion. Pourquoi vaut-il particulièrement la peine de nous attarder sur notre affectivité? Tout simplement parce qu'elle occupe beaucoup d'importance, beaucoup de place dans le monde d'aujourd'hui. L'affectivité est exacerbée parce que nous vivons dans une société qui est très perturbée. Les besoins affectifs sont énormes à cause de la dislocation de la famille, du monde froid et technique, notre monde de béton. Je me souviens d'une promenade que mon épouse et moi faisions dans la ville de Liège et de cette inscription qui m'avait interpellé: le cœur de Liège est devenu un cœur de béton. Il y a aujourd'hui dans le monde beaucoup d'éponges assoiffées d'amour, assoiffées d'émotions fortes. Et puis, il y a le fait que nous vivons, surtout dans nos pays, dans un monde très freudien. Nous sommes beaucoup plus que nous le pensons, marqués par Freud, y compris, hélas, dans l'Église de Jésus-Christ, où progressivement nous sommes devenus des éponges et avons adopté à bien des égards ces slogans que l'on retrouve dans certains livres et dans certaines communautés. L'important, c'est ce que je ressens. L'important, c'est que je sois bien dans ma peau. L'important, c'est de pouvoir s'éclater. L'important, c'est de pouvoir se faire plaisir. L'important, c'est d'avoir des sensations. Et nous vivons dans un monde où exciter, exacerber l'affectif, le tendre comme un élastique jusqu'à son extrême, est un jeu recherché avec tous les risques qu'il comporte, y compris dans le saut à l'élastique, qui est une des expressions de ce besoin de ressentir le plus fortement possible, et on se demande ce que l'on va encore inventer, parce que c'est une drogue. Et qu'il arrive un moment où le saut à l'élastique, ça ne vous fait pas plus de frissons. Il y a donc une escalade de l'affectivité qui est extrêmement forte. Or, il se trouve que dans le christianisme de Dieu, des Écritures, l'affectif joue un rôle. Les sentiments ont leur place. Les émotions ont leur place. Et il y a donc là un terrain très facile pour que l'ennemi puisse faire dériver le disciple de Christ vers une idolâtrie affective, vers un besoin de satisfaction affective extrêmement forte dans l'Église de Jésus-Christ. Il ne faut pas que notre affectivité devienne en quelque sorte le maître étalon de notre bonheur. Alors prenons quelques enseignements concernant l'affectivité, quelques enseignements que nous illustrerons chaque fois. Je pense tout d'abord à nos 10 années de service en Bretagne, où nous habitions donc à quelques centaines de mètres à peine de la mer, et où très vite, j'ai été attiré et très intéressé par le phénomène des marées, qui rend la côte bretonne en particulier très très intéressante. Et cela m'a joué des tours. Je me souviens d'un jour où nous sommes allés sur une plage avec des amis, nous y sommes restés un moment, et puis j'ai dû, pour un quelconque devoir à remplir, quitter la plage, laisser mon épouse, peut-être les enfants, je ne me souviens plus à quelle époque c'était, et puis les amis qui nous accompagnaient. Et donc je devais revenir pour les retrouver sur cette même plage, une ou deux heures plus tard, après avoir rempli mes obligations. Je suis donc revenu. Je suis arrivé en bordure de côte. J'ai longuement observé le paysage. Nous étions depuis relativement peu de temps dans la région. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, Maurice, tu t'es trompé. Donc je suis reparti. Et j'ai erré de lieu en lieu, je ne sais pas combien, pendant combien de temps. Malheureux, désespéré, inquiet parce que je savais qu'on m'attendait et que le temps passait. Et me disant, mais c'est pas possible, comment se fait-il que je ne retrouve pas la plage sur laquelle mon épouse est avec les amis. Finalement, je suis revenu au premier endroit où j'étais revenu, n'est-ce pas, et où je m'étais dit, je me suis trompé. Et en scrutant plus attentivement, j'ai fini par me rendre compte que je ne m'étais pas trompé. Mais le paysage avait changé. Parce que la mer s'était retirée. Et donc, vous savez que quand la mer se retire, d'autant plus sur de profondes distances, tout est complètement modifié. Alors, c'est une parabole en même temps, n'est-ce pas? Nos émotions, elles sont tantôt à marée haute, tantôt à marée basse, tantôt entre les deux. Et suivant la hauteur, l'amplitude de nos marées émotionnelles, notre vision du paysage, des êtres, des circonstances est sensiblement modifiée. Et cela peut nous valoir les égarements et les mauvaises évaluations que j'ai connu lorsque j'ai voulu retrouver les miens. Dans l'équipe des 12 de Jésus, il y avait un homme extrêmement sensible. Et cette sensibilité, cette émotivité lui a joué des tours. Lorsqu'il était à table, le soir de la fameuse scène, et qu'il a dit, mais quand tous te trahiraient, moi, j'irai jusqu'à la mort avec toi. Pourquoi disait-il cela? Parce qu'il était sous l'emprise d'une très forte émotion. Il vivait avec cette équipe des moments très, très particuliers. C'était un peu une famille autour du lit d'agonie d'un bien-aimé avec lequel on avait vécu de manière très intense, très étroite, pendant 3 ans, n'est-ce pas? Or, que s'est-il passé? Ils ont quitté la pièce après cette déclaration de fidélité prononcée avec une très forte émotion par Pierre. Ils se sont rendus à Gethsémané. Jésus s'est éloigné à quelques pas. Il s'est mis à prier. Quand il est revenu, les 3 principaux mousquetaires dormaient. Et c'est intéressant parce que Jésus les interpelle. Mais en leur parlant au pluriel, il s'adresse à Pierre. Pierre, vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi? Vous voyez, c'était plus la scène, ce n'était plus la chambre haute, c'était le jardin. La situation était en train d'évoluer, l'émotivité évoluait elle aussi, et faisait dodo. Et puis, un tout petit peu plus tard, il va y avoir le triple reniement de Pierre. Vous voyez, un phénomène émotionnel extrêmement instable. Simon Pierre est prêt d'abord à tout pour son Seigneur, puis il s'endort, puis il va renier dans 3 lieux, 3 situations différentes, mais très proches les unes des autres. Un homme mené par ses sentiments. Il faut peu de choses pour influencer et faire fluctuer nos sentiments. Un simple rhume, la fatigue, une annonce météo qui ne nous arrange pas, une mauvaise nuit derrière nous, des perspectives à venir sombres ou lumineuses, une personne croisée sur notre chemin, une lettre reçue, ou un coup de téléphone, ou simplement, et nous ne savons pas pourquoi, nous ne le comprenons pas, nous sommes incapables de l'expliquer, une sorte de moment de dépression, qui en réalité très souvent est une attaque de la puissance des ténèbres pour essayer de nous déstabiliser. Sans doute avez-vous remarqué que c'est souvent lorsque on ouvre sa Bible pour rencontrer le Seigneur qu'on a ce qu'on appelle le coup de barre. C'est fou. Parce que subitement, les paupières deviennent lourdes. Nous sommes dans un véritable combat spirituel. Je comprends cette parole de Spurgeon. Un esprit tranquille et stable revêt une grande valeur. Chaque fois que je passe par une période d'exaltation, je sais ce qui m'attend. D'ici quelques heures, le découragement s'emparera de moi. Si l'aiguille de la balance s'écarte trop à droite, elle basculera certainement à gauche. L'état d'esprit le plus enviable consiste à conserver l'équilibre. Des événements heureux se produisent. Remercions Dieu. Mais n'y attachons pas notre cœur. Si le bonheur disparaît, remercions Dieu de l'avoir lui-même ôté et continuons à bénir son nom. Apprenons à tout supporter. Celui pour qui tout vient selon la volonté de Dieu possède une grande stabilité. La tempête ne le secoue pas car l'ancre solide de sa foi en la Providence lui permet de surmonter la tempête quand d'autres se laissent emporter. Une chose m'a récemment surprise, je n'y avais jamais vraiment réfléchi. Il est question dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6, de l'ancre, A-N-C-R-E, de l'espérance. Cette ancre de l'espérance qui nous permet une vie de disciple stable n'est pas jetée en bas. Une ancre, on la jette en bas, n'est-ce pas? Or, là, c'est une folie. L'ancre est jetée en haut. Comme fou. Et ça, c'est notre problème. Nous avons une logique qui reste humaine dans le domaine spirituel. Et en tant que disciples de Jésus-Christ, nous sommes comme un capitaine qui serait un petit peu fou. Et qui se dirait, bon, ben, je vais accrocher l'ancre au mât du navire. Et on sera stable. Puis il se rend compte que ça ne marche pas, alors il cherche où il peut l'accrocher, il trouve un autre lieu, et finalement il va jeter l'ancre à fond de cale, mais toujours dans le bateau. Ça c'est ce que nous faisons, n'est-ce pas? Quand nous nous centrons sur ce que nous ressentons, sur nos émotions, quand nos émotions, notre affectivité devient point de repère, nous faisons exactement ce que ce capitaine fait. Nous lançons l'ancre de l'espérance sur nous-mêmes. Il ne faut pas la lancer dans le monde, c'est la sagesse d'en bas, il faut la lancer là-haut. Et là-haut, c'est le Seigneur qui tient l'ancre. Et quand il tient l'ancre, c'est du solide, n'est-ce pas? Alors, souvenons-nous, là-haut, et pas dans notre propre vie. L'affectivité est un radar peu fiable, voire même dangereux. Un pilote-instructeur voulait faire comprendre à son élève à quel point il est dangereux de se fier à ce que l'on ressent, voler aux instruments. Il lui demanda donc de fermer les yeux, d'incliner la tête et de diriger l'avion d'après ce qu'il ressentait intérieurement, en procédant au fur et à mesure aux ajustements estimés nécessaires pour garder la position horizontale. L'élève s'exécuta donc en se concentrant à fond jusqu'à ce que finalement l'instructeur silencieux jusque-là lui ordonne d'ouvrir les yeux. L'avion descendait en spirale vers le sol, qui se rapprochait à vive allure. Une fois que tout fut rentré dans l'ordre, l'instructeur fit remarquer à l'élève que cette expérience se terminait toujours de cette manière. Il l'avait baptisée la spirale de l'homme mort. Cela veut dire que nous ne devons pas utiliser l'affectivité comme baromètre indiquant le degré et la qualité de notre communion avec Dieu. Parce que si nous le faisons, cela va générer l'instabilité. Nous allons être tout en haut, apparemment, spirituellement, lorsque nous serons émus par la présence de Dieu ou par ce que nous pensons être la présence de Dieu. On va y revenir. À cause des chants, la prédication, la cérémonie, l'inauguration. Et puis nous serons en bas, lorsque nous ne ressentirons rien. Et le croyant qui investit trop dans le domaine des sentiments vit une vie de disciple en dents de scie, en permanence. Et puis il y a le travail de l'imagination, lorsque l'émotivité est à fleur de peau. Et là j'ai été interpellé par cette histoire vraie que je vous raconte, c'est un témoignage que je vous lis même. Mon excellente amie, un tel, a été décorée pour son courage durant la guerre du Vietnam. Pourtant, la première nuit que son unité passa dans ce pays ravagé par la guerre ne laissa pas le souvenir d'un héroïsme particulier. Sa compagnie ne s'était jamais battue et les hommes étaient terrifiés. Ils creusèrent des tranchées dans une colline, guettèrent avec nervosité le soleil disparaissant à l'horizon et vers minuit, comme ils s'y attendaient, l'ennemi attaqua, tirant sans arrêt d'un côté de la montagne. Et les hommes se mirent à tirer frénétiquement et à lancer des grenades dans l'obscurité. Le combat fit rage toute la nuit. Enfin, le soleil parut et l'on voulut compter les morts. Mais on ne trouva pas un seul cadavre. En réalité, aucun soldat ennemi n'avait participé à l'attaque. La compagnie inexpérimentée s'était farouchement battue contre la nuit et avait remporté la victoire. Les émotions, ce qu'elles peuvent engendrer. Ne pas laisser à notre imagination la bride sur le cou. Nos pensées, l'apôtre Paul le dit, doivent être captives de Dieu et de sa parole. Or là, nous avons un problème. Parce que, avec Freud, nous devons laisser à notre imagination la bride sur le cou. Nous devons accepter la liberté du fantasme. Pensez tout ce que vous voulez. Laissez courir le monde de votre imagination. Vous voulez voir un film porno dans votre tête? Aucun problème. Défoulez-vous, ça fait du bien. Et le problème, c'est que se laisser aller des fantasmes, d'une libre imagination, soi-disant parce qu'on ne fait de mal à personne,
est entré dans l'église. Et il m'est arrivé à diverses reprises ces dernières années d'avoir confidentiellement des confessions, de se laisser aller des fantasmes avec tout le caractère destructeur qui est nié précisément par la pensée freudienne. Nous devons nous souvenir qu'il n'y a pas de différence sensible de musique en matière affective, sentimentale, émotionnelle, quel que soit le musicien. Imaginons que mon cœur soit une harpe, et on tombe bien, n'est-ce pas, durant ce cours. Ce cœur, cette harpe, à une corde que nous appellerons l'affectivité. Quel que soit l'instrumentiste qui pince la corde, le résultat sera pratiquement identique. Laissons entrer un premier instrumentiste qui pince la corde. Par exemple, un film, au cinéma, à la télévision, sur vidéo. Dans ce film, il y a des acteurs, c'est-à-dire des personnes qui jouent un rôle. Il n'y a rien d'authentique. Elles se sont mises dans la peau de personnages. Il y a des décors. Et ces décors peuvent être très sophistiqués. On a des effets extraordinaires aujourd'hui. Et puis, il y a l'entrée depuis peu du virtuel. En fait, dans certains films, tout est artificiel. Et pourtant, à un moment donné, je vais essayer d'aller jusqu'au fond de ma poche pour sortir un mouchoir et je vais commencer à verser des larmes saisies d'une très très profonde émotion. Alors si je suis capable tant soit peu de raisonner un peu au milieu de mes larmes, je vais dire, mais Maurice, mais tu es ridicule. C'est du complètement artificiel. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Et tu pleures comme une madeleine, tu es remué. Vous comprenez le problème? Si je fais entrer un autre instrumentiste, une cérémonie religieuse, mystique. Vous imaginez une personne prosternée devant une icône, un gourou, en extase. Ils peuvent connaître de très profondes émotions. Des croyants font des expériences émotionnelles bouleversantes, tout en continuant à vivre dans l'immoralité. Et ils justifient leur immoralité sur la base de leurs expériences bouleversantes. Ils disent, si Dieu m'accorde des expériences sentimentales, émotionnelles, affectives très fortes, ça veut dire que Dieu est d'accord avec la vie que je mène. La vie que je mène ne pose pas de problème à Dieu puisque je suis capable de ressentir des choses absolument extraordinaires quand un message est donné, quand un jeu d'orgue a lieu, quand quelqu'un donne un témoignage et que sais-je encore. Or, vous le savez, le Saint-Esprit ne conduit jamais quiconque dans l'immoralité. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, dans l'Église de Jésus-Christ, des sommets dans le domaine de l'affectivité côtoient des cloaques d'immoralité. Si ce n'est précisément à cause de la place extrêmement forte, mais mauvais point de repère, qu'occupe l'affectivité trop souvent dans la vie. Quelqu'un écrit ceci, on peut provoquer une sensation par l'hypnose, ou par l'activité de l'imagination, la reproduire au moyen de drogues hallucinogènes. L'expérience émouvante comme le sable. La place privilégiée qu'on lui attribue peut dégénérer en égocentrisme ou en hédonisme, c'est-à-dire l'amour du plaisir, et elle trahit le message du christianisme évangélique. Donc, le bon point de repère dans nos vies ne sera jamais l'émotion ressentie. Le bon point de repère sera toujours son origine. Est-ce que la source, le déclencheur, est en accord avec la parole de Dieu? Est-ce que je peux m'appuyer sur la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a accord, harmonie entre parole de Dieu et ce que je ressens? Et puis souvenons-nous d'une chose, c'est que la présence du Seigneur Jésus dans nos vies est plus importante que le sentiment de cette présence. Prenez les fameux disciples d'Emmaüs dans Luc 24. Ils rentrent de Jérusalem, ils rejoignent leur village. Ils sont désespérés. Ils sont animés d'une terrible tristesse. Ils n'y comprennent plus rien. Quelqu'un les rejoint. Ils sont étonnés qu'il ne soit pas au courant. Il lui explique. Ils disent, ben il est mort, hein. Celui que nous aimions. Il était enseveli. Il est juste à côté d'eux. Ils sont tristes. Leurs sentiments sont complètement en bas. Jamais peut-être dans leur vie jusque-là, Jésus n'a été si proche d'eux. Et c'est toujours ce que l'ennemi essaye de faire, n'est-ce pas? Vous faire croire que le Seigneur Jésus est loin, qu'il ne s'intéresse pas à vous. Peut-être précisément au moment même où Jésus est le plus près. C'est le cas dans bien des épreuves, n'est-ce pas? Où l'ennemi réussit à nous communiquer ce mensonge de l'abandon du Seigneur, tout simplement parce que nos émotions sont emportées par toutes sortes de dérives, de courants. Or, s'il y a des moments où Dieu est très proche de ses enfants, il est toujours très proche, mais où il est solidaire de nos vies, c'est bien les moments où nous côtoyons de lourdes tempêtes, difficiles à gérer. Je sais que Jésus est avec moi parce qu'il me le promet dans sa parole et non parce que je ressens sa présence. Et puis nous devons nous souvenir que Dieu nous appelle à l'aimer de tout notre cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Il n'est pas dit tu aimeras le Seigneur uniquement de toute ton âme, mais de tout ton cœur d'abord. Or le cœur est l'épicentre de la personne. Le cœur est vraiment le siège en profondeur de tout ce qui appartient à notre personnalité avec tous ses leviers de commande. Et donc dans le cœur, il y a le domaine de la raison, de la volonté. Il y a tous nos choix, toutes nos décisions, toutes nos évaluations, tous nos discernements. Aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur englobe toute la suite. Je l'aime avec le quartier quartier général de mon individualité. Et pas simplement avec les trémolos de mes émotions. Parce que ça, c'est le domaine simplement de l'âme. Notre affectivité est un merveilleux cadeau de Dieu. Mais elle doit être à sa juste place. Le péché a tout désorganisé dans notre vie. Quand le Saint-Esprit vient demeurer en nous, à partir de ce processus miraculeux, extraordinaire, incompréhensible de la régénération, de la nouvelle naissance, il a de l'ordre à remettre. Et il va avoir notamment de l'ordre à remettre au niveau du corps, avec tout l'appel des sens physiques. Il va avoir de l'ordre à remettre au niveau de toute l'affectivité, de manière à ce que ce soit l'esprit, rempli du Saint-Esprit, qui domine tout ce domaine de l'âme et du corps. Et nous avons une preuve de ce désordre dans notre langage. Je ne voudrais faire de peine à personne, mais je suis persuadé que vous le comprendrez. Quelqu'un ce matin a évoqué la nature qu'on appelle tripartite de l'homme, c'est-à-dire l'homme composé de trois parties. Alors il y a toute une querelle à savoir est-ce que l'homme est une créature tripartite ou bipartite. On ne va pas se battre là-dessus, ça ne sert absolument à rien. Les Écritures ne voient pas les choses de cette manière, n'est-ce pas? Les Écritures ne sont pas un traité qui ne traite que de cela. Et effectivement, on peut considérer que l'homme est tripartite et bipartite, dans ce sens que vous avez deux textes qui soulignent l'aspect trois parties, mais, vous savez, poser des cloisons, c'est toujours dangereux dans ce domaine. Parfois, l'esprit et l'âme, on ne sait pas très bien comment les situer dans les Écritures. Donc, ne faisons pas un traité là-dessus, ce n'est pas l'essentiel, n'est-ce pas? Mais, rappelons-nous quand même que les Écritures, à deux reprises, parlent de trois dimensions. Alors, quand on parle de trois dimensions, qu'est-ce que nous disons? L'homme, c'est corps, âme, esprit. Et c'est faux. Parce que les Écritures disent, l'homme, c'est esprit, âme, corps. Vous comprenez? Donc, quantité de domaines, ce n'est pas le seul. Nous trahissons, et ça c'est le cas pour chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Nous trahissons ces renversements de valeurs, de priorités de valeurs dans le plan de Dieu, dans notre langage. Or, ça ne veut pas dire que celui qui dit corps, âme, esprit va se centrer sur le corps. Mais nous gardons souvent dans notre langage une hiérarchie renversée, alors même que l'esprit a commencé à dominer. Alors, ce qui est formidable, c'est qu'en avançant avec le Seigneur, nous soyons sensibles à ces priorités telles qu'elles sont exprimées dans les Écritures, pour qu'aussi notre langage reflète l'ordre divin dans nos vies. Alors, une dernière remarque sur ce plan qui n'est pas sans importance. Quelle sera la pédagogie divine envers le croyant au sentiment hypertrophié, c'est-à-dire beaucoup trop développé, et qui va donc, en quelque sorte, idolâtrer le monde de son émotivité? Bien, il permet que le torrent se vide. Il permet que le torrent se vide. Et se vide complètement. Et j'en parle par expérience personnelle, ayant vécu une enfance très douloureuse, une adolescence très difficile, heureusement ayant rencontré le Seigneur ou ayant été rencontré par lui très tôt, ce qui m'a énormément soutenu dans les énormes combats de l'enfance et de l'adolescence. Je suis néanmoins entré dans la vie de jeune adulte avec des besoins émotionnels extrêmement forts. Ayant perdu une maman très tôt, puis la sœur qui m'a élevé après, décédée, jeune mariée, un peu plus tard, etc. Ce qui fait que j'avais cette tendance à mesurer la proximité du Seigneur à ce que je ressentais. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'avais l'habitude de rencontrer le Seigneur tous les matins. Et puis, je me souviens de la première fois où je n'ai absolument plus rien eu comme sentiment de la présence de Dieu. Et où j'ai commencé à m'inquiéter. À dire, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Et ça a duré non pas un jour, mais deux jours, trois jours, quatre jours. Ça a duré 7 mois la première fois. Pendant 7 mois, chaque jour, quand j'avais ma rencontre avec le Seigneur, c'était le même désastre. Et j'ai vraiment vécu des journées et des semaines extrêmement difficiles parce que j'étais absolument convaincu que Dieu m'avait abandonné, que mes prières ne montaient pas plus haut que le plafond, tout simplement parce que je ne ressentais plus rien du tout dans mon cœur. Et je n'avais plus de satisfaction, je me demandais bien à quoi ça servait d'ouvrir ma Bible et de prier le matin. Et quand j'étais dans un état absolument désespéré à cet égard, au bout de 7 mois, un matin, en faisant la méditation, j'ai eu le sentiment fantastique de la présence de Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas fait de démarche particulière. Comment se fait-il que subitement, aujourd'hui, ce soit exactement l'opposé d'hier? Et le Seigneur a bien voulu, dans sa grâce, me répondre. Il l'a fait dans les semaines qui ont suivi, par toutes sortes de canaux, en soulignant, tu vois Maurice, ton problème, c'est que tu bâtis toute ta vie spirituelle sur ton côté émotionnel, sur ce que tu ressens. Tu marches par la vue au lieu de marcher par la foi. Maurice, quand tu te lèves le matin, quoi que tu ressentes, quelle qu'ait été la qualité de la nuit que tu viens de vivre, quelles que soient les nouvelles que tu pressens, le programme qui t'attend, je suis le même. Je ne bouge pas. Ma parole ne change pas. Je te dis dans ma parole que je suis avec toi. Tu dois apprendre, Maurice, à t'appuyer sur ma parole au lieu de marcher avec ce radar extrêmement dangereux. Appuie-toi sur moi. Et après m'avoir fait pénétrer dans ces réponses, après que je les ai assimilées intérieurement, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ça a recommencé. Il y a eu à nouveau ce sentiment d'être dans le désert, d'être dans un tunnel, de ne plus avoir de point de repère au niveau de mes émotions, de mes sentiments. Et Dieu m'a appris comme ça, dans ces situations où je n'avais plus de point de repère, il m'a appris à affirmer le matin à mon lever, Seigneur, quel que soit le programme d'aujourd'hui, quelle que soit la météo, même si j'ai fait une rage de dents pendant la nuit, si bébé a hurlé de douleur pendant des heures parce que les dents étaient en train de sortir, ça ne change rien. Tu es le même. Donc je m'appuie sur toi. Alors je tenais à le partager cela, parce que c'est incroyable le nombre de frères et sœurs qui se débattent aujourd'hui avec ce problème de l'émotivité, des émotions, des sentiments, de l'affectivité, et qui se demandent comment vivre une vie stable, parce que tout nous pousse aujourd'hui dans notre monde à donner aux émotions et aux sentiments une place très importante. Alors là, il faut avoir l'équilibre, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de bannir le monde des sentiments. Si le Seigneur nous donne un moment fantastique dans sa présence, les délices de sa présence, un moment sur la montagne de la transfiguration, il ne s'agit pas de cracher dessus, c'est un cadeau de Dieu. Merci Seigneur pour ce moment délicieux que tu m'accordes. Je suis heureux d'être dans ta présence. C'est un beau cadeau, je n'y suis pour rien et je veux en profiter. Mais Seigneur, je sais très bien que tout à l'heure, ça peut être totalement différent. Alors je ne vais pas m'attacher à ce que je ressens en ce moment. C'est sur toi que je veux m'appuyer. Merci Seigneur de m'avoir fait cadeau des émotions. Mais merci parce que les émotions, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de savoir que tu es présent par ta parole. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Et j'aimerais ce soir, en terminant, souligner cette stabilité, cette immuabilité ou immutabilité, les deux termes sont utilisés dans le domaine théologique, cette fiabilité, cette fidélité parfaite de Dieu. Il n'y a chez lui ni changement, ni ombre de variation, Jacques 1,17. Sa fidélité dure de génération en génération, psaume 100, verset 5. Je suis l'Éternel, je ne change pas, Malachie 3,6. Et j'aime ce passage d'un homme de Dieu qui est auprès du Seigneur depuis les années 60 et qui a beaucoup apporté et qui a écrit ceci: quelle paix pour un cœur chrétien dans la pensée que notre Père Céleste n'est jamais différent de lui-même. Lorsque nous nous présentons devant lui, quelle que soit l'heure, nous n'avons pas à nous demander si nous le trouverons dans une disposition accueillante. Il est toujours accueillant à la détresse et aux besoins comme à l'amour et à la foi. Il n'a pas d'heure de bureau et ne se réserve pas des périodes où il ne reçoit pas. Il ne change pas d'avis ni d'attitude. Aujourd'hui, en ce moment même, il a envers ses créatures, envers les petits-enfants, les coupables, les pécheurs, les mêmes sentiments que lorsqu'il envoya son Fils unique dans le monde pour donner sa vie pour les hommes. Dieu ne change jamais d'humeur. Sa tendresse ne se refroidit pas. Son enthousiasme ne s'épuise pas. Alors c'est une incitation, une invitation à compter sur la fidélité de Dieu et à refuser le credo du diable. C'est Hudson Taylor qui disait: c'est le manque de confiance qui est la racine de presque tous nos péchés et de toutes nos faiblesses. Comment y échapperons-nous sinon en regardant à lui et en considérant sa fidélité? L'homme qui compte sur la fidélité de Dieu sera prêt pour toutes les circonstances. Il osera obéir, quand même cette obéissance paraîtrait tout à fait hors de saison. Satan a aussi son credo. Douter de la fidélité de Dieu. Dieu aurait-il dit: vous exagérez, vous prenez ces paroles dans un sens trop littéral, etc. Combien de gens affrontent leurs difficultés avec leurs propres ressources? Oh, ami bien-aimé, s'il y a un Dieu vivant, fidèle et véritable, tenons ferme à sa fidélité. Nous pourrons regarder avec une paisible confiance toutes les difficultés, tous les dangers, certains de la victoire et du succès. Ne donnons pas à Dieu une confiance partielle, mais servons Dieu en comptant de jour en jour, d'heure en heure, sur sa fidélité. Fiabilité, vérité, efficacité, solidité, fidélité parfaite de sa parole. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véridique, il rend sage le simple. Les ordres de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est limpide, il éclaire les yeux. Les ordonnances de l'Éternel sont vraies, elles sont toutes justes. Psaume 19, versets 8 à 10. Il se rappelle toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Psaume 105, 8. Tous tes commandements ne sont que fidélité. Psaume 119, 86. Tu fondes tes préceptes sur la justice et la plus grande fidélité. » Verset 138. « Celui qui a fait la promesse est fidèle. » Hébreux 10, 23. « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. » C'est le refrain des épîtres pastorales. Ces paroles sont sûres et vraies. C'est la conclusion de foi dans Apocalypse 21, verset 5 et 22, verset 6. Et je termine par cette excursion que nous faisions en 1980 dans le Massif central en Haute-Loire à l'occasion d'une convention chrétienne où nous étions plusieurs orateurs. Et au cours de cette excursion, nous nous sommes arrêtés devant une maison en vente. Sur un linteau de cette maison, on pouvait lire Psaume 6, verset 10. « L'Éternel accueille ma prière. » Et juste à côté, il y avait une horloge de pierre qui indiquait 1h25 sur un second linteau. Avec ces mots gravés sous l'horloge, « Quand elle marquera midi, l'on vous fera crédit. » D'un côté, une merveilleuse promesse du Dieu de vérité. « L'Éternel accueille ma prière. » De l'autre, une promesse mensongère de Satan, puisqu'une horloge de pierre ne change pas d'heure. Nous avons le choix. Et dans le fond, c'est ce que Dieu a voulu nous dire pendant toute cette semaine. Nous avons le choix à nous de choisir en qui nous mettons notre confiance. Sur qui ? Sur quoi ? Nous appuyons-nous quotidiennement pour bâtir notre vie. Tous les torrents, un jour, sont à sec. Un seul torrent reste toujours plein d'eau. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Psaume 65, verset 10. Venez le voir dans mon bureau. Nous voulons prier. Seigneur notre Dieu, nous sommes heureux de pouvoir t'aimer avec la totalité de notre personne, avec tout notre cœur. Seigneur, garde-nous de l'instabilité émotionnelle. Garde-nous de nous laisser entraîner par le sac et le ressac, par les vagues successives et le creux des vagues de notre émotivité. Merci pour ta solidité. Merci pour ta stabilité. Merci parce que tu ne changes pas. Père, tu es un soleil qui ne se couche jamais. Tu es une fontaine qui ne cesse jamais de couler. Tu es une source qui ne tarit jamais. Merci pour la toute suffisance que nous trouvons en ton Fils Jésus-Christ. Apprends-nous de plus en plus à nous attacher à toi, à savoir jouir des bénédictions que tu nous accordes, sans qu'elles deviennent des idoles qui nous cachent ta face. Ouvre nos yeux pour que nous te contemplions, toi le premier. Et merci, merci, merci de m'avoir rappelé que quand mon torrent de quérité est à sec, ton ruisseau est plein d'eau. Merci parce que tu vas nous accompagner ainsi demain, les uns et les autres. Et c'est ce que tu seras pour chacun d'entre nous jusqu'au jour du grand rendez-vous éternel dans ta présence pour jamais, pour toujours. Oh merci pour cette heureuse perspective. Nous te louons, nous t'adorons. nous voulons continuer à te servir, quel que soit l'état de notre émotivité. Nous voulons te servir et t'aimer. En Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen.